VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, il est 11h en temps universel. Bienvenue, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a accordé une amnistie à quelques 3000 personnes, pour l'essentiel des femmes et des jeunes détenus dans les prisons surpeuplées du Zimbabwe, les condamnés pour meurtre, trahison, viol, vol à main armée ou avec violence et ceux punis par une cour martiale sont exclus de cette mesure d'amnistie. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, mis en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007, a affirmé qu'il vivait l'enfer de la calomnie, selon sa déclaration au magistrat, reproduite aujourd'hui sur le site internet du journal français Le Figaro. Jacques Aristide nous en dit plus.
Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie, a déclaré M. Sarkozy, qui dénonce également l'absence de preuves matérielles dans les accusations portées contre lui. L'ancien chef de l'État français, 63 ans, a été inculpé hier soir pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens, ce qui marque un coup d'accélérateur dans cette affaire instruite par des magistrats français depuis près de 5 ans. Les faits dont on me suspecte sont graves. J'en ai conscience, mais si, comme je ne cesse de le proclamer avec la plus totale constance et la plus grande énergie, si c'est une manipulation du dictateur Kadhafi ou de sa bande ou de ses affidés, alors je demande aux magistrats de mesurer la profondeur, la gravité, la violence de l'injustice qui me serait faite, a conclu l'ancien président français.
Une zone de libre-échange africaine a vu le jour hier à Kigali, au Rwanda. Elle est potentiellement la plus vaste au monde en termes de pays membres. C'est l'un des projets clés de l'Union européenne, de l'Union africaine pour renforcer l'intégration du continent. Par ailleurs, 27 pays ont aussi signé un protocole autorisant la libre circulation en Afrique des personnes entre les pays signataires. Eric Manirakiza a joint à Kigali le secrétaire d'État aux affaires étrangères du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Ndourongué.
On a eu 44 signatures de chefs d'État et de gouvernement. On n'en attendait pas tant, ce qui est un événement historique et on espère qu'il y aura autant de ratifications, puisque les chefs d'État ont décidé que l'accord sur la zone de libre-échange continentale va entrer en vigueur avec 22 signatures. Et on espère que cela va arriver avant le sommet de janvier 2019 à Addis Abeba.
Et que prévoit l'accord?
L'accord, en fait, je l'avais dit, c'est un vieux rêve africain. C'est un des projets phares de l'intégration du continent, hein, où on va libéraliser le commerce entre pays africains. Vous savez que le commerce intra-africain est l'un des plus bas au monde avec 16%. Donc nous, ce qu'on veut, c'est booster ce commerce. Et les études nous disent que lorsqu'on cet accord sera en vigueur, le commerce entre pays africains augmentera de 60%. Et il va y avoir bien sûr d'autres conséquences positives pour l'économie africaine, la promotion de l'industrie sur notre continent. Et puis aussi, ça va nous permettre, en tant qu'Africains, de faire du commerce avec d'autres continents sur, j'allais dire, un pied d'égalité. Donc être une force dynamique dans le commerce mondial.
Y a-t-il des dispositions qui obligent les États qui ratifient l'accord de le respecter? Parce que souvent, on prend des décisions, mais la mise en application, c'est autre chose.
Bien sûr, vous avez raison. Dans le passé, on a signé, il y a eu beaucoup d'annonces de la part des États africains, de l'Union africaine ou bien de l'UE, qui n'ont pas été mises en œuvre. Mais je pense que maintenant, le contexte a changé et que les chefs d'État africains et les pays africains ont compris l'importance de se mettre ensemble et mettre en œuvre les accords qu'on a signés nous-mêmes et qui sont importants pour l'avenir du continent.
Est-ce que les économies faibles ne risquent pas d'être absorbées?
Non, mais je pense que ce sera une opportunité pour les économies, toutes les économies africaines. Vous savez, on est au 21e siècle, l'ère du protectionnisme est révolue. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que le continent doit bien sûr, et l'économie des pays membres de l'Union africaine doit bien sûr se réformer pour qu'on arrive à suivre le mouvement. Bien sûr, cet accord sur la zone de libre-échange continentale ne peut pas résoudre à lui tout seul et tous les problèmes liés à nos économies. Donc, cela doit s'accompagner avec d'autres politiques africaines, y compris la politique sur l'industrialisation du continent, par exemple, la politique sur la faire taire les armes sur notre continent. Et donc, c'est très important. Donc, on va mettre tous ces accords et toutes ces politiques ensemble pour essayer de faire que le continent soit un continent prospère, qu'il soit une force qui est respectée sur la scène internationale.
Olivier Ndourongué, secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, à la coopération chargée de l'East African Community. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé hier les électeurs à participer massivement à l'élection présidentielle la semaine prochaine. Il fera face à un seul candidat qui est aussi un de ses fervents partisans. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est un scrutin qui se déroulera sur 3 jours, les 26, 27 et 28 mars. Abdel Fattah al-Sisi brigue un deuxième mandat de 4 ans. Ancien chef de l'armée, il a été élu en 2014, un an après avoir renversé le président islamiste Mohamed Morsi. Plusieurs autres prétendants à la présidence ont été écartés. L'ancien chef d'état-major Sami Anan a été interpellé peu après avoir annoncé sa candidature. L'ex-premier ministre Ahmed Shafik, à son retour d'exil, a été gardé dans un hôtel jusqu'à ce qu'il retire sa candidature. Le président Sisi estime que l'absence de concurrence sérieuse n'était pas de sa responsabilité. Son seul rival, Moussa Mustapha Moussa, a battu campagne pour lui avant de se lancer dans la course le 29 janvier dernier. D'ailleurs, il avoue que c'est pour éviter à M. Sisi d'avoir à se présenter seul dans un scrutin aux allures de référendum. Il a remercié le président égyptien en disant que, quels que soient les résultats finaux, mon respect pour vous et vos réalisations resteront un idéal dans ma vie et à l'avenir.
L'intensification des conflits et la sécheresse persistante dans plusieurs régions du monde ont fait grimper à 124 millions le nombre de personnes jugées à la merci d'une famine à la fin 2017, une augmentation de 15% comparée à l'année précédente selon une estimation de l'ONU et de l'Union européenne publiée ce jeudi. En 2016, le même rapport avait estimé à 108 millions le nombre de personnes dans le monde confrontées à une insécurité alimentaire grave et en 2015 à 80 millions. Plusieurs milliers de combattants rebelles et de civils s'apprêtent à quitter ce jeudi la Ghouta orientale en Syrie, une première depuis le lancement d'une offensive du régime syrien déterminé à reconquérir dans son intégralité l'ultime bastion des insurgés aux portes de sa capitale Damas. L'opération a toutefois pris du retard, selon l'agence France-Presse. L'accord dans la Ghouta passé avec le régime est négocié par les forces de Moscou, intervient alors que le pouvoir de Damas mène depuis le 18 février une offensive meurtrière et dévastatrice contre les territoires rebelles. À Washington, il est 7h07.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington. La majorité républicaine et l'opposition démocrate du Congrès américain ont annoncé un accord négocié de haute lutte afin de financer durablement l'État fédéral. Le compromis survient alors que la date butoir de vendredi approche à grands pas. Chaque camp a dû renoncer partiellement à certaines revendications. Les précisions de Anne Alberson.
Dans le texte de plus de 2200 pages négocié depuis des semaines, les dépenses militaires ont été portées à 700 milliards de dollars et le reste des dépenses du gouvernement à 591 milliards pour l'année budgétaire 2018 qui se termine le 30 septembre prochain, soit près de 1300 milliards. Le texte n'inclut aucune mesure de régularisation pour les centaines de jeunes sans-papiers dont l'avenir est incertain après la suppression par Donald Trump d'un programme de permis temporaire créé par Barack Obama. Un article réformant le système de vérification des antécédents criminels et psychiatriques avant l'achat d'une arme à feu a été inclus après des fusillades qui ont marqué l'opinion et l'interdiction de la recherche fédérale sur la violence par arme à feu va être levée. Une ancienne revendication des démocrates. Des centaines de millions de dollars supplémentaires ont été débloqués pour lutter spécifiquement contre les cyberattaques russes, notamment lors des élections législatives de novembre. Reste désormais à faire adopter le texte sans délai avant vendredi soir minuit pour éviter la troisième fermeture des administrations de l'année. La Chambre votera en premier, suivie du Sénat, selon un calendrier non encore calé. Les ultraconservateurs de la Chambre ont déjà annoncé leur opposition, ainsi que certains démocrates, pour des raisons distinctes. Les chefs du Congrès comptent sur le gros de leurs troupes pour faire passer le compromis.
Merci Anne. Pékin s'est dit ce jeudi prêt à adopter toutes les mesures nécessaires pour se défendre alors que le président américain Donald Trump s'apprête à annoncer de nouvelles sanctions commerciales contre la Chine qu'il accuse de vol de propriété intellectuelle. La Chine ne restera pas les bras croisés. Nous prendrons immanquablement toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument nos droits et intérêts légitimes, a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué dénonçant le protectionnisme et l'unilatéralisme de Washington. Jean-Roger Billon à Washington, merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.